Actualité. Rien ne va plus dans la planète conspirationniste, ça c'est sûr et certain. Les têtes d'affiche tombent les unes après les autres ou sont sur le bord de tomber. Pour ça, c'est une bonne nouvelle. De toute façon, le Québec déconfine, donc ils ont de moins en moins de légitimité d'être. Et ça commence à se faire sentir. L'argent rentre beaucoup moins. Ce qui fait en sorte qu'il y en a là-dedans qui disent « Ben là, c'est pas normal que vous nous donnez plus d'argent. Donnez-nous de l'argent. » Parce que là, leur salaire commence à être moins important. Ce qui est assez ironique d'un certain sens parce que le message qu'on véhicule parmi ces gens-là, c'est qu'on est là pour aider le monde, on va libérer le Québec, on va... Tu sais, il y a mille et une raisons pourquoi on veut avoir l'argent du pauvre monde qui sont facilement influençables sur les réseaux sociaux. Au point où, parce que l'argent ne rentre plus, t'as des porte-paroles de ces gens-là. Probablement qu'ils se sont fait taper sur les doigts d'avoir fait ce genre de vidéo-là, mais qui se mettent dans leur char, qui se mettent dans leurs états, qui hurlent dans leur char pour dire « Là, là, on se bat pour vous autres, c'est pas normal que vous nous donnez plus d'argent, que ça coûte cher ces affaires-là, vous devriez le savoir, fait que... continuer à donner de l'argent parce que nous, on n'est pas des monstres, pis nanana, tu sais. » Mais à peu près, dans le même temps, on a une longue enquête. Et c'est le cas de le dire, de la journaliste Brigitte Noël, qui travaille à l'émission Enquête du côté de Radio-Canada, qui a eu accès à des courriels qui ont été échangés entre une des têtes d'affiche du mouvement complotiste, Amélie Paul, pour pas la nommer, qui est une ancienne animatrice de Call TV, notamment, donc la magouille n'est jamais bien loin. Et dans cet échange de courriel-là, elle se vante d'avoir fait plus d'argent en 3 mois de « donnez-moi de l'argent sur PayPal pour faire mes vidéos de désinformation sur YouTube ». Ces vidéos humoristiques, entre guillemets. Elle dit « J'ai fait plus d'argent... » Je vais aller chercher la citation. Pendant la pandémie, elle a fait plus d'argent en 4 mois que son salaire total de l'année précédente grâce aux dons obtenus sur les plateformes de sociofinancement. La prestation canadienne de relance économique, donc la PCRE, qui est l'aide financière liée à la COVID, qu'elle dit avoir récoltée. Donc, en plus de travailler bénévolement, entre guillemets, à réveiller les consciences sur Internet, elle a également demandé à recevoir la prestation d'urgence parce que, probablement, justement, que quelques... Ben, en fait, l'année précédente, elle ne gagnait pas beaucoup d'argent... Pas parce qu'elle faisait des vidéos complotistes à ce moment-là, parce que pour vrai, je pense même qu'elle n'était plus du tout, ou à peu près pas, dans les médias, parce qu'elle avait de tout, ben dans les médias, dans les réseaux mainstream, on va dire, parce que de toute façon, elle faisait déjà elle vendait des produits de santé. Donc, un peu comme il y a eu une mode que les gens vendaient du jus de bleuet, que c'était si hot que ça. Compagnie pyramidale, finalement, on va le dire, là, de trop recruter du monde en dessous de vous autres, puis ils vont pouvoir vous amener d'autres argent, puis vous allez pouvoir vendre des produits. Donc, ce n'est pas de la pyramide, mais c'est de la pyramide. Ben, dans son cas, elle vendait des produits naturels. Donc, elle se disait naturopathe, en plus. Donc, il faut avoir, normalement, une licence pour exercer le métier. Dans son cas, ça reste à prouver si elle était bel et bien enregistrée du côté des naturopathes Québec. Si c'est le nom, mais bien, en tout cas, du moins, d'être légitime dans ce qu'elle fait. Et où ça blesse et où ça commence à devenir préoccupant, c'est que dans cet argent-là, justement, qu'elle a gagné, on va dire, dans la dernière année, ben, elle s'en est vantée à son ami Bernard Lachance. Ou en tout cas, son client, Bernard Lachance, ça, c'est sûr et certain. Bernard Lachance, pour la petite histoire, on a appris récemment qu'il était décédé des suites notamment du fait qu'il avait le VIH et qu'après avoir regardé des vidéos sur Internet qui disaient que le VIH n'existait pas, que c'était une invention, a décidé d'arrêter de suivre sa trithérapie. Sa trithérapie qui fait en sorte que le VIH, la maladie ne progresse pas et vienne à un statut négatif, dans le sens où il a toujours la maladie, mais elle ne se développe pas. Elle est contrôlée. Ici, si on perd le contrôle du VIH, ben ça s'en va tranquillement vers le sida, donc la maladie qui va vraiment faire en sorte que s'il pogne peu importe quoi, son système ne pourra pas se défendre. Et dans une circonstance où la COVID fait des ravages, probablement que quelqu'un qui n'a pas de système immunitaire pour se défendre, dans ce cas-là, littéralement, bien que ce soit un leitmotiv de « j'ai un système immunitaire, je suis capable de me défendre », dans ce cas-ci, ayant son système immunitaire complètement affaibli de par le VIH, par le sida, une fois que le VIH a fait place, ben ça fait en sorte que, tranquillement, pas vite, Bernard Lachance devenait de plus en plus à risque. Donc, a-t-il contracté la COVID-19? L'histoire le dira. Ou est-il vraiment décédé parce qu'il n'a pas suivi ses traitements, ou si c'est à force de, mais du moins dans les dernières semaines de la vie de Bernard Lachance, il était extrêmement amaigri. Amélie Paul, qui lui a donné des conseils médicaux, en tout cas, ça reste à prouver si ce sont des conseils médicaux qu'elle lui a donnés. Elle lui a vendu des produits, ça c'est sûr et certain. Au-delà de sa amitié, Amélie Paul offrait des conseils santé à Bernard Lachance. Évidemment, ils vont se défendre en ce moment. Là, c'est sûr que ses amis, Amélie Paul, essayent de la défendre en disant « Mais non, c'est pas, il a pas exigé de faire telle affaire. » Elle lui a donné des conseils. Après ça, si Bernard Lachance les a suivis, c'est lui. Mais en même temps, après avoir gagné la confiance de Bernard Lachance, parce que Bernard Lachance était quelqu'un qui voulait avoir de l'attention, on l'avait vu rapidement en 2009 aller sur le plateau d'Oprah, aller à Tout le monde en parle, parce qu'il avait réussi à vendre les billets pour son spectacle aux États-Unis. Il était à Chicago, sauf erreur. Il vendait des billets à main dans la rue pour faire son spectacle de chanteur. Il n'était pas un mauvais chanteur non plus, mais ce fame-là, ce vedettariat-là instantané a aussi l'autre côté qu'une fois que la bulle est passée, une fois que le trip est passé, ben c'est tout. Si t'es pas capable de bouncer là-dessus, si t'es pas capable de continuer à vivre de ça, ben tu vas retomber dans l'oubli aussi rapidement que t'es monté dans le vedettariat. À preuve, Star Academy, c'est exactement ça. Si t'es pas capable de vivre du succès de Star Academy, ben toutes les téléréalités, en fait, si t'es pas capable de vivre du succès de Star Academy, d'Occupation Double, de Love Story, à la limite, à une certaine époque, si t'es pas capable de monétiser ce vedettariat-là, tu retombes dans l'anonymat le plus complet. À preuve, quand on ne gagne pas Occupation Double et Star Academy et tout ça, si on continue dans le métier après, c'est parce qu'on en a profité et qu'on a été au bon moment, au bon endroit. Sinon, ça donne des émissions de rénovation à Canal Vie que peu de monde regarde et que, tranquillement, pas vite, on a déjà un petit peu oublié Cendrick et Paisy, même s'ils ont été les vedettes des deux retours de Star d'Occupation Double. Je m'égare. Bernard Lachance voulait être une vedette, il voulait être connu, il voulait être reconnu dans la rue, ce qui a fait en sorte que quand il est retombé dans l'anonymat, il a essayé de se recycler, mais il avait toujours l'envie de revenir au devant de la scène, d'être devant les micros et tout ça, ce qui a fait en sorte que lorsqu'il a rencontré des gens qui ont corroboré son idée que c'est une maladie inventée, le VIH, ça n'existe pas, ou c'est fait en laboratoire, ou peu importe les raisons, il y en a, d'inventer que ce n'est pas vrai, qui a été conforté par la madame Ghislaine, la docteure Ghislaine, elle, c'est la pire dans la gang, probablement. Ben, ça a fait en sorte qu'il s'est conforté dans son idée que ce n'était pas vrai, que c'était une mascarade, que ça n'avait pas de sens, au point où son médecin traitant à ce moment-là, qui est Régent Thomas, qui est une sommité québécoise dans la lutte contre le sida, contre le VIH, qui était son médecin traitant, à un moment donné, Bernard Lachance rentre dans le bureau de Régent Thomas puis il dit « C'est terminé, je prends plus tes médicaments, je prends plus ta chenoute, je veux plus rien savoir, je m'en vais. » Évidemment, Régent Thomas qui est très inquiet de cette décision-là. Et plus tard, on retrouve Bernard Lachance qui fait des vidéos sur Internet, qui fait des vidéos pour dénoncer l'imposture, le mensonge du VIH et du sida. Et il rejoint une petite faction. Donc, il y a des gens qui adhèrent à son message au point où le même docteur Régent Thomas reçoit des appels pour se faire dire « Ah, j'ai vu une vidéo de Bernard Lachance, ton ancien patient. Je vais faire comme il dit, je vais arrêter. Moi aussi, je vais arrêter. » Et là, ça commence à sonner des cloches que ça n'a pas de bon sens. Où ça culmine dans le cas de Bernard Lachance, c'est qu'il va essayer d'avoir une entrevue avec Denis Lévesque. Parce que Denis Lévesque l'avait reçu à l'époque où il était justement à essayer de conquérir les États-Unis, faire une carrière de musicien, carrière de chanteur. Et dans ce cas-là, il essaye d'aller à Denis Lévesque parce qu'il y aurait un nouveau projet. Ça, c'est de même qu'il l'amène à Denis Lévesque. Il y a un nouveau projet. Il aimerait ça y en parler. Évidemment, Denis Lévesque, il aime ça ravoir des vedettes qu'il a déjà eues à son émission. Fait qu'il dit, ben oui, pourquoi pas. Et là, l'entrevue commence. Bernard, tu viens nous parler de ton nouveau projet, un nouveau livre, un disque, peu importe. Et aussitôt qu'il commence, Bernard Lachance arrête Denis Lévesque puis il dit, ouais, là, tu m'aimeras peut-être pas, Denis, là, mais j'aimerais te parler d'autre chose. Fait que là, Denis Lévesque, il se croise les bras puis oh, qu'est-ce qu'il va me sortir là? Et il commence à déblatérer son message de le VIH, ça n'existe pas, il y a des vidéos sur Internet qui le prouvent, j'ai fait mes recherches, puis est-ce que c'était pendant la COVID ou quelques... Je pense que c'est dans les débuts de la COVID, l'entrevue avec Denis Lévesque, sauf erreur, mais en tout cas, on est très proche du confinement, si on n'est pas déjà dedans. Et là, Denis Lévesque, il entend ça, il commence à pas être à l'aise ben, puis il décide d'arrêter l'entrevue complètement. Et là, il commence un peu à se pogner avec Bernard, puis il dit, mais là, tu m'avais dit que c'était ma rechercheuse, puis tu avais fait une entrevue pour parler d'un livre. Là, je pense que c'est un livre. Puis là, tu m'amènes tes théories farfelues, puis tout ça, puis j'embarque pas là-dedans, c'est dangereux ton message. Puis regarde, on arrête ça là. Et évidemment, l'entrevue arrête. Et là, Bernard Lachance, qui est en Zoom, qui est en Skype, commence à se faire parler avec le réalisateur de Denis Lévesque. Puis ouais, là, Bernard, c'était pas ça qu'on avait convenu. Tu peux pas commencer à parler d'autres choses. Puis, tu sais. Et là, lui avait, parce qu'il savait très bien qu'est-ce qu'il faisait, il avait volontairement fait en sorte que Denis Lévesque l'empêche, entre guillemets, de parler. Donc, le censure, entre guillemets, mais en même temps, ça aurait été totalement irresponsable de Denis Lévesque de passer ça, malgré tout, en ondes. Un peu comme les lignes ouvertes le soir à la radio ou même à la télé, quand ils font des périodes de questions à RDI ou à LCN, par exemple. C'est du responsable, c'est de la responsabilité de la personne qui met en onde une personne qui a un discours totalement loufoque, de l'arrêter, de le couper et de rétablir les faits. Donc, dans le cas de Denis Lévesque, comme c'était préenregistré, comme c'était l'après-midi, ben ils ont pu juste faire « OK, c'est beau, on a assez entendu, merci, bonsoir, on coupe l'entrevue » et le soir même à Denis Lévesque, on mettait d'autres choses ou on mettait une reprise, tu sais. Fait que pour ça, ça allait du côté de Denis Lévesque, il a bien fait. Il l'a arrêté dans son délire, entre guillemets. Sauf que lui, c'était enregistré de son côté. Donc, on voit le montage qui était prêt de Denis Lévesque, de l'entrevue. On voit Denis Lévesque qui coupe. Et la partie, justement, où le réalisateur dit « Là, Bernard, tu vas trop loin, ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce que tu racontes? » Et évidemment, ben lui, il a mis ça en ligne. Il a dit « Regardez la censure de Denis Lévesque à LCN. On m'empêche de dire la vérité et tout ça. » Ce qui fait en sorte que, par la suite, il commence à avoir une tribune dans la sphère complotiste. Donc, le studio avec Stu Pitt, Alexis Cossette-Trudel, Amélie Paul, qui commence à avoir des publics cibles, des gens qui les écoutent, ce monde-là, parce qu'ils disent la vraie de vraie vérité, la vérité brutale, comme le dit Amélie Paul. Et ils reçoivent tous Bernard Lachance pour qu'ils viennent parler de la vérité. Donc, on donne une tribune à Bernard Lachance et Bernard Lachance réalise son rêve d'aller parler devant du monde. Il est allé faire un discours dans une manifestation un moment donné pour parler de l'imposture, mais dans une manifestation d'antitout. Et les gens qui l'acclament, Bernard, c'est ça qu'il voulait. Il a obtenu le vedettariat qu'il voulait depuis toujours. Mais comme sa santé s'aggrave et qu'Amélie Paul lui vend de la cochonnerie, de produits de « Ah, t'as la langue blanche, il faut que tu te fasses détoxifier le foie. Tout est parfait, ton corps ne va pas se laisser mourir. Il va te le dire quand ça sera le temps de manger plus. » Sauf qu'il était rendu à un moment dans sa vie où il était tellement amaigri. Il dit à Amélie Paul, « Je suis rendu, je pèse 113 livres. » Il dit « Tu pèses moins que moi. » Il est techniquement un petit peu plus grand qu'elle. Fait que Amélie Paul allume pas là, à ce moment-là. Elle disait non, on commence à manger, recommence à suivre des traitements. Non, elle commence à vendre des produits de la marque Immunotech qui se vendent au-delà de 100$ la boîte sur le site de l'entreprise. Elle y vend des cossins. Ah, si t'as mal à la tête, essaye la tisane camomille de tout ça. T'as la langue blanche, essaye mon produit qui va nettoyer ton foie. V'là de l'aloès et un laxatif, ça va t'aider à ce que ça passe. Sauf qu'il était tellement affaibli et amaigri qu'il avait de la misère à marcher, puis il gardait pas une pomme. Il mangeait une pomme, il vomissait. Il était rendu à ce point-là. Et Amélie Paul, qui était de très mauvais conseils, lui disait « Ah ben non, ça va passer, inquiète-toi pas, ça va aller. » Et c'est là qu'on arrive à les dernières semaines de Bernard Lachance, où il se fait encore une fois extrêmement mauvaisement conseillé par des anciens médecins, des anciens experts, mais pour pas que ça soit trop long, on va aller en pause musicale, au retour, la suite de tout ça. Et c'est probablement les deux personnages, les deux pires personnages de la complotosphère en ce moment, en les personnes de Jean-Jacques Crèvecœur et de Gis Langteau, Guylaine Langteau, comme elle se fait appeler. On en parle tout de suite après cette courte pause musicale. On va entendre Laura Lefebvre en musique. On continue à parler du cas Bernard Lachance qui a tremblé un peu les bases de la complotosphère québécoise cette semaine. Vous écoutez le deuxième service sur les ondes de chez de CFAQ.
Tiens, qu'un fil, moi je ne tiens qu'à nous. je voudrais revivre, mais la fin c'est demain. Si c'est là, est-ce que quelqu'un pourrait me dire comment être humain?
Margaret Tractor tout de suite après. Donc, Laura Lefebvre qu'on vient d'entendre en musique. Comme je le disais, reportage d'enquête cette semaine qui a été publié en texte parce que ben, l'émission n'est pas en ondes en ce moment, donc il n'y a pas de reportage vidéo. Quoique, c'est pas vrai. Il y en a eu un aux nouvelles le soir même, mais ça aurait été un segment complet avec le texte qui a été mis en ligne. Les deux pires de la complotosphère en ce moment, Gis Langteau et Jean-Jacques Crèvecœur. Jean-Jacques Crèvecœur qui est un Belge que justement, il est extrêmement critiqué en Europe, mais du côté québécois, tu sais, on le prend plus ou moins sérieux, donc on en parle un peu moins, mais tu sais, il sévit sur YouTube, fait que sur YouTube et sur Facebook, fait que ils peuvent pas faire grand-chose, mais en tant qu'ancien médecin, même, je pense qu'il est même pas médecin. Fait que tu sais, un militant anti-vaccin. Voilà, qui s'est déjà vanté d'avoir convaincu des hommes séropositifs de cesser leur trithérapie. Donc, probablement, Bernard Lachance était là-dedans. C'est un Belge conférencier en développement personnel, connu pour son conspirationnisme, c'est sa définition. Fait que, il est même pas médecin, il est juste un monsieur qui parle fort sur Internet. Je l'ai connu il y a quelques années. Il m'avait découvert par une vidéo. Il s'est adressé à moi et donc j'ai suivi. Je l'ai suivi. Pas suivi comme tel. Je l'ai vu évoluer dans cette décision de dire, d'exposer l'imposture du VIH qui donne le sida, explique Guylaine Langteau, Gis. Au début, il était tellement en colère, je lui ai dit, tu ne peux pas faire ça comme ça, tu vas te tuer. Elle ajoute que sa mort n'est pas étonnante et que Bertrand connaissait les risques. Semble-t-il, on va dire que c'est suspect, la manière dont il est mort, a dit Jean-Jacques Crèvecœur dans un live Facebook. Oui, répond Guylaine Langteau, il était en grande forme et en 3 mois, il a dégringolé en toute vitesse. À toute vitesse. Je sais pas pourquoi, hein? Peut-être parce qu'il y a une maladie qu'à une certaine époque, on mourait en dedans d'un mois parce qu'il n'y avait pas de traitement pantoute. Je sais pas à quel point ça peut aider. Et en plus, de donner des produits à Bernard Lachance qui ne l'aide pas non plus à sa santé, je pense qu'on a une piste de solution, Gis Langteau. Il a fait des purges pour se nettoyer, puis il s'est mis à se déshydrater au point de n'avoir que la peau sur les os. À la fin, se désole Lise Lachance, sa sœur. Il a crié à l'aide et des gens qui l'aidaient de cette gang-là. Personne ne lui a dit d'aller à l'hôpital, évidemment. Parce que les traitements que lui prescrivaient, ou que lui recommandaient, pardon, que lui recommandaient les Jean-Jacques Crèvecœur, Gis Langteau et Amélie Paul de ce monde, c'était de se purifier. De se purifier le corps et de se débarrasser de la trithérapie. Donc, s'il était amaigri, s'il était en train de se vider le corps, c'était de se purifier de tous les médicaments qu'on lui avait prescrits jusqu'à ce moment-là pour l'aider à combattre sa maladie. Donc, on voulait qu'il se purifie le corps et qu'il redevienne pur. Une affaire de même. Évidemment, où le bas blesse, c'est qu'Amélie Paul et Gis Langto font des vidéos ensemble. Elles font elles-mêmes des vidéos pour faire la promotion de leur cochonnerie de produits et de justement que ben là, le vaccin pour le vaccin qui va changer les armes, qui va changer l'ADN des gens. C'est ce discours-là en ce moment. Et évidemment, ben Gis Langto et Amélie Paul, on dit à Bernard Lachance, ben non, va pas à l'hôpital, ils vont bourrer de médicaments, ça a juste pas de sens. Et où ça devient particulièrement préoccupant, c'est qu'une femme se serait présentée chez Bernard Lachance pour lui administrer un soluté. Le soirée avant la mort de Bernard Lachance, celui-ci avait passé 24 minutes au téléphone avec Guylaine Langto, que évidemment elle ne connaît pas tant que ça, mais que Bernard a jasé avec pendant 24 minutes. L'ex-conjoint de Bernard était présent lors de cette conversation et raconte que l'ex-médecin, donc Guylaine Langto, aurait conseillé à Bernard d'appeler une contact à elle, une ancienne infirmière, qui est venu le soir même lui administrer un soluté par voie intraveineuse. Qui avait-il dans ce soluté-là? La question se pose. Le problème, c'est que justement, les proches de Bernard Lachance se posent des questions sur quelle est la relation qu'il entretenait avec Guylaine Langto. Quelle influence elle avait à ce point-là sur la vie de Bernard Lachance. Et c'est l'une des dernières personnes qui a parlé à Bernard avant qu'il meure. Ce qui arrive. Bernard Lachance était mourant de façon évidente. Il a été très mal conseillé. Guylaine Langto l'a très mal conseillé. Et c'est une ancienne médecin. Elle a été radiée, mais c'est une médecin quand elle a déjà été médecin quand même. Donc si elle n'a pas vu qu'il était mourant, malgré la formation qu'elle a, c'est à n'y rien comprendre. Ça, c'est les paroles à peu près de Michel Martel, qui est un véritable médecin et ancien ami de Bernard. Les courriels consultés démontrent que Guylaine Langto avait approché d'autres personnes pour les soins de Bernard. Dans un courriel envoyé le 30 avril dernier, elle le met en contact avec une amie en Europe qui se serait guérie de plusieurs cancers grâce à des techniques, évidemment, de médecine expérimentale. Son mari est un médecin recyclé maintenant en médecine de Hammer, écrit-elle en référence à la biologie totale ou la médecine nouvelle germanique, pratique controversée qui prétend qu'il est possible de guérir par la pensée. Donc, on se réunit en groupe et on se dit « ça va bien aller ». Et, miraculeusement, ça va bien aller. D'ailleurs, un reportage d'enquête en 2009 sur un homme d'affaires qui est décédé pour avoir écouté Guylaine Langto lui raconter que la biologie totale était la solution, qu'elle a demandé un montant de 68 000 $ pour ouvrir une clinique en Estrie de biologie totale. Et évidemment, quand enquête est allée la confronter, il a demandé « Connaissez-vous ce monsieur-là? » « Non, jamais entendu parler. Vous lui avez pas demandé 68 000 $ pour ouvrir une clinique de biologie totale en Estrie? » « Non, jamais entendu parler de ce monsieur-là. » Mais il y a des appels téléphoniques et les filles de ce monsieur-là avaient contacté enquête. Donc, Guylaine Langto est une récidiviste et c'est une femme dangereuse. Et dans ce cas-ci, Elle a certainement contribué à la mort de Bernard Lachance, en plus d'avoir dit à une infirmière retraitée qui n'a plus le droit de pratiquer d'aller administrer quelque chose à une personne mourante. Évidemment, la femme venue administrer le soluté n'aurait pas non plus son droit de poser ce genre de geste puisqu'elle n'est pas inscrite à l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec ni à l'Ordre des infirmiers et infirmières auxiliaires. Donc, pratique illégale de la médecine. Et si vraiment Gisèle Langteau a dit à Bernard, tu devrais prendre ce soluté-là, donc conseil médical, qu'elle a fait venir une infirmière contact de Gisèle Langteau, donc elle a donné un ordre à une infirmière d'avoir pratiqué la médecine, elle va se retrouver à quelque part coupable si en plus c'est à cause de ce soluté-là que Bernard Lachance est décédé. De toute façon, en ce moment, il y a une enquête du coroner qui a été lancée depuis. Le coroner Pierre Bellil confirme que la mort de Bernard Lachance fait l'objet d'une enquête, que les conclusions ne seront pas attendues avant plusieurs mois, mais en ce moment, s'il n'y a pas des poursuites qui s'engagent contre Jean-Jacques Crèvecœur, Amélie Paul et Gisèle Langteau, ça serait à n'y rien comprendre. Ils n'auront pas le choix. La famille n'aura pas le choix. Avec ou non l'enquête du coroner, il y a quelque chose qui ne fait pas de sens dans cette histoire-là. Il y a une chance que enquête a réussi à, probablement grâce à la famille, a réussi à mettre la main sur ces documents-là parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas de sens dans cette histoire-là. Et si en plus Bernard, justement, parce qu'il s'est fait endoctriner, parce qu'on lui a dit, ben non, on va t'aider, nous autres, nous, on a à cœur ton bien-être, on lui a mis un écran de fumée pour lui faire à croire que ces gens-là étaient là pour l'aider, autre chose que d'y pogner son argent en vente de cossins totalement inutile, ben à ce moment-là, ils ont clairement du sang sur les mains, ces trois personnes-là. C'est clairement des personnes qui avaient la volonté de pogner l'argent de Bernard Lachance, d'une part, et en plus de le conforter dans ses idées, de lui faire à croire qu'il avait raison, c'est probablement là où il est, de le mettre sa vie en danger. Il y avait une maladie qui pouvait le tuer s'il n'était pas suivi de manière légitime et par des vrais professionnels, et il en est mort. Après ça, bien évidemment, le coroner va confirmer de quoi il est véritablement mort, mais ça va prendre des semaines et des semaines, c'est sûr et certain. Chose qui est positive, parce que oui, il faut quand même chercher le positif là-dedans, c'est qu'après l'annonce du décès de Bernard Lachance il y a quelques semaines maintenant, évidemment, grâce au reportage d'enquête, on espère que ça va continuer, mais il y a des gens qui avait dit à Régent Thomas, « Ah, Bernard Lachance nous a éveillés, on va arrêter de prendre la trithérapie. » Ben, il y a des gens qui ont recontacté le docteur Régent Thomas pour dire, « Ouais, on va recommencer finalement. On va recommencer à suivre le droit chemin. » Parce que justement, ils ont la possibilité de continuer à vivre et de ne pas souffrir comme Bernard Lachance a probablement souffert dans ses derniers moments de vie grâce à un traitement qui a fait ses preuves aujourd'hui, qui aide pour vrai aujourd'hui. T'sais, on arrive tranquillement à se débarrasser du VIH-Sida. Il y a des études en ce moment qui sont positives de ce côté-là, qu'on commence à trouver la solution. Mais tant et aussi longtemps que cette solution-là n'est pas véritablement réglée, c'est sûr et certain qu'en ce moment, faut se fier avec les solutions qu'il y a. Mais de prendre de l'aloès, de prendre des tisanes, de la camomille, de prendre la cochonnerie qu'Amélie Paul a vendue à Bernard Lachance pour combattre la trithérapie et le vider de ces médicaments-là, c'est extrêmement dangereux. Donc, on espère qu'Amélie Paul va se faire oublier dans les prochaines semaines. Elle se pose vers des lives Facebook avec la crème de la crème de la complotosphère cette semaine. Évidemment, à la suite du reportage d'enquête, il n'y en a pas eu hier. Ils sont censés en faire un aujourd'hui. Est-ce qu'ils vont le faire quand même? Est-ce qu'Amélie Paul va être là? Elle est mieux pas. Elle est mieux de se faire oublier, Amélie Paul, parce que là, en ce moment... En plus, ils ont des preuves qu'elle a demandé de la PCU, qu'elle a demandé de l'aide gouvernementale pour payer ses choses l'année dernière. Et en plus, elle recevait des dons par les gens pour faire ses vidéos. Et elle se vante d'avoir un comptable assez borderline qui fait accroire à ses revenus qu'elle a pas eu tant d'argent que ça l'année dernière. Là, je te dis les vrais chiffres, mais moi, j'ai un bon comptable assez borderline, fait qu'il va m'arranger de quoi, parce que ce n'est pas déclaré. Moi, c'est des dons. Mais elle rajoute, my God, je ne devrais pas dire ça, ça laisse des traces. Mais oui, Amélie, ça laisse des traces. T'as un comptable borderline qui a peut-être signé ton rapport d'impôt, qui va se faire enquêter, et elle aussi devrait se faire enquêter, parce que le fisc aime beaucoup ça, des gens qui se vantent de ne pas avoir de payer d'impôt sur l'argent qu'ils ont reçu. Mais après ça, est-ce que la Fondation pour la libération du peuple de Stéphane Blais est à peu près dans la même situation? Probablement. Probablement qu'ils ont eu recours au même comptable particulier qui réussit à régler des petites affaires. Mais il y a des enquêtes à faire de ce côté-là, c'est sûr et certain. Fait que Amélie Paul a ouvert une brèche cette semaine en écrivant et en se vantant d'avoir fait de l'argent dans la dernière année grâce aux dons du monde. Qu'ils l'ont cru, mais que là, tranquillement, pas vite, justement, la Fondation sont en danger en ce moment. Ils sont censés recevoir 100 000, 200 000, 300 000 du petit monde qui sont censés poursuivre le gouvernement pour arrêter d'être confinés. Sauf que en ce moment, on n'est plus confinés. Le couvre-feu n'existe plus. Donc, leur structure, depuis un an, d'avoir ramassé un demi-million de dollars pour poursuivre le gouvernement... de lever le confinement, mais il n'existe plus. Leur raison première n'existe plus. Et comme les gens, justement, commencent à retrouver leur vie normale, à se dire « Ah ouais, finalement, ça n'avait peut-être pas de sens qu'est-ce qu'ils disaient. Je peux pas croire que j'ai donné de l'argent à ça. » Ben, tant mieux si les gens se réveillent. Justement, le réveil sera brutal. Mais justement, les gens qui ont été aveuglés par ces têtes d'affiches-là, par les Stéphane Blais, Alexis Cossette, Daniel Pilon, Amélie Paul, tout ce monde-là, commencent à se rendre compte que, ouais, j'aurais peut-être pas dû leur donner de l'argent finalement. Mais tant mieux si ça vous aura pris ça pour comprendre les Daniel Tadros et les frères Tadros de ce monde pour qu'ils vivent au Mexique sur le bras du monde. Ben tant mieux si les gens commencent à réaliser que ce monde-là voulait juste avoir de l'argent. C'est tout ce qu'ils voulaient. En ce moment, leur but, c'est de ramasser le plus d'argent possible du pauvre monde qui ne comprenait pas, qui cherchait une solution, qui cherchait à comprendre pourquoi on vivait ce qu'on vivait et qui, malheureusement, se sont fait avoir, se sont fait pogner par du monde malsain qui voulait ramasser l'argent du monde et qui ont réussi. Des gens qui donnaient des 1000, des 2500 piastres pour une cause qui n'allait jamais aboutir qui n'allait jamais aboutir au tribunal et que de toute façon, quand on demande les chiffres, oh, ça s'en vient, on va vous les donner et que finalement, au total, ben, c'est les salaires qui se sont versés que l'argent est allé. C'est complètement louche, c'est complètement débile. Ils ont flairé une affaire, mais justement, parce qu'on revient tranquillement à la vie normale, parce que la vaccination va bien, que les cas sont en perpétuelle baisse depuis que, justement, la vaccination va bien, qu'on n'a plus de cas graves qui se ramassent à l'urgence. Il y a un hôpital à Montréal qui n'a plus de cas de COVID pantoute. Un hôpital désigné COVID n'a plus de cas du tout dans ses murs. Pour la première fois depuis mars l'année passée. Fait qu'on revient tranquillement à la vie normale. Il y a des gens qui vont réussir à prendre une journée de vacances parce qu'ils n'ont pas de cas de COVID. Ils n'ont pas besoin d'être là pour soigner ces personnes-là. Fait que parce que la vie reprend, parce que la vie va revenir à quelque chose de plus stable, ben là, en ce moment, ils n'ont plus de cause. Ils veulent manifester pour ce qui reste. Ouais, mais les gens n'y vont plus. Les gens ne vont plus aux manifestations. S'ils ont été capables d'être 10 000 à un certain moment, mais en ce moment, ils ont de la misère à avoir 2 000 personnes. Et ça paraît, justement. Et on les entend, eux autres aussi, dire oh, « On commence à être fatigué, on commence à être tanné, puis nanana. » Mais tant mieux. Tant mieux si ces gens-là perdent, eux autres aussi, la foi, entre guillemets, de ce qu'ils revendiquaient, parce que, justement, il n'y a rien à revendiquer. Enfin bref, au moins la bulle complotiste est en train de dessouffler énormément. Et grâce au reportage, entre autres, de Brigitte Noël d'Enquête à Ici Radio-Canada, ça va peut-être réussir à ouvrir les yeux à plusieurs. Ben justement, Amélie Paul, évidemment, a fait le ménage à son Facebook, mais elle avait des centaines et des centaines de commentaires. Qu'est-ce que t'as à dire là-dessus? Pourquoi tu dis plus rien? C'est-tu vrai que t'as tué Bernard? Fait que c'est pour ça, elle va être obligée de se faire oublier, là. Elle n'aura pas le choix. Quand même qu'elle fait le ménage sur ses trucs, elle rend ça privé, elle reste qu'elle est un danger public. Elle a peut-être tué quelqu'un. Mais elle va se dire, non, moi je ne faisais que des recommandations. Elle va essayer de se dédouaner. Mais elle a peut-être tué un gars qui était très naïf, malheureusement, parce que il aurait voulu être un artiste, pour reprendre une phrase très connue. Mais que malheureusement, il n'a pas pris la bonne tangente pour essayer de devenir une vedette, en étant une vedette très nichée dans le mouvement complotiste. T'sais, c'était pas une tête d'affiche, Bernard Lachance. T'sais, même là, même dans son désir d'être une grosse vedette, c'était pas une tête d'affiche qu'on voyait tout le temps. Là. C'était pas un ténor comme Mario Roy, comme Steve l'artiste Charlet, comme Jonathan Blanchette. T'sais, c'était pas une vedette qu'on reconnaît à coup sûr. Mais il était quand même influençable au point où des gens avaient arrêté de prendre leur médication. Mais que justement, de ces suites, ben au moins, ils ont décidé de raccrocher et de recommencer à suivre leur traitement. Et c'est probablement ça le message à suivre, c'est arrêter de faire confiance à des madames sur YouTube qui essayent de revendre leur cochonnerie de « Ah, ben cette maladie-là n'existe pas vraiment, puis non, c'est pas de même que ça marche. » Donc, Brigitte Noël et Emmanuel Marchand, c'est un récit numérique sur la plateforme iciradiocanada.ca. Bernard Lachance, dernier jour de Bernard Lachance, de l'eau salée pour soigner l'ex-chanteur. C'est un long document à lire, mais ça en vaut la peine. Et ne serait-ce que pour comprendre à quel point les Jean-Jacques Crèvecœur et Gis Langteau de ce monde sont des personnes extrêmement dangereuses. Beaucoup plus qu'Amélie Paul. Amélie Paul, c'est centré Québec. Mais Gis Langteau et Jean-Jacques Crèvecœur, ils ont une plateforme dans la francophonie. Eux sont les véritables dangers en ce moment. On s'arrête. J'ai dépassé la pause de la demi-heure ici à Gis. Ça fait extrêmement longtemps. Donc, courte pause au retour. Margaret Tracteur en musique. Et on conclut l'émission déjà. Le temps passe beaucoup trop vite. Vous écoutez le deuxième service sur les ondes de Chez et de CFAQ.
Ici Marie-Joseph Corriveau. J'avoue que je trouve ma sentence bien sévère, mais au moins, grâce à ma cage, j'arrive à capter 3600 secondes d'histoire les mercredis à 18h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM.
Durant quelques heures, les musiciens, les danseurs et les spectateurs ont vibré au même rythme.
Branche-toi sur l'art et la culture d'ici. Écoute local. Écoute Chiz 94.3.
Cinéma, showbiz, les nouvelles internationales et surtout la bonne musique tropicale. Samedi, dimanche, 13h, Radio Futura 94.3 FM, Québec, Canada. Partout au monde, www.chiz.ca. Digan lo que digan, somos la numéro uno.
En parlant de nous, là, justement, les deux sont dans le même trou. Pourquoi mon père pour nous que tu l'auras, mais t'es tellement fort que
tu me tueras, Dan Bigras.
En parlant de loup, le justement, les deux yeux dans le même trou. En parlant de loup, plus on rit, plus on est fou. Solo de loup.
Déjeuner de Sa Majesté le Loup est servi.
De retour au deuxième service, en parlant du loup de Margaret Tracteur qu'on a finalement entendu sur les ondes de Chiz. Quand je le disais, bon, je vais y aller rapidement là, parce que ça devient un peu lourd. Quand je disais que la bulle conspirationniste est en train de dessouffler, la tête d'affiche, si elle en est une, d'ancien Storm Alliance, de la Meute, maintenant les Farfadets par la bande Mario Roy, qui s'est retrouvé en prison dans les derniers mois. Ça fait quand même déjà 2 mois, ce qui est quand même pas une mauvaise chose. Il avait harcelé des journalistes, il avait menacé une avocate. Il s'est retrouvé en prison, entre autres, parce qu'il était très instable. Et dans cette histoire-là, ben il a tenté de retrouver sa liberté au courant des dernières semaines. Finalement, ça lui a été refusé. Les accusations continuent de s'accumuler contre le leader du mouvement anti-masque, Mario Roy. Il a été accusé avec 5 autres personnes cette semaine relativement au blocage du tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine. Souvenez-vous, en mars, ils étaient allés faire une manifestation à Montréal et pour la deuxième fois, ils se sont arrêtés en plein milieu du tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine pour bloquer la route parce que la police avait osé arrêter des gens de la manifestation et oser donner des étiquettes de non-conformité. Donc, en mesure de protestation, comme ils le disent, ils ont décidé de s'arrêter en plein milieu du trafic pour manifester, faire jouer leur maudite chanson et crier dans le tunnel des trucs comme « Fuck you, Legault ». Fait à ce moment-là, ben évidemment, ça n'a pas passé. Il y a quelqu'un dans une des voitures qui est sorti pour aller avec un marteau fessé sur les chars des complotistes pour les faire avancer. Évidemment, il était reparti par la suite. Il était un peu l'espèce de porte-parole de la population du Québec au grand complet à ce moment-là. Et ce qui a fait en sorte que des accusations ont été portées cette semaine suite à ce blocage-là. Donc, autant Mario Roy se rajoute un autre chef d'accusation contre lui, autant que Steve Charland, sa conjointe Carole Tardif, Michel Junior Deshaies, Tommy Rioux et André Desfossés sont tous accusés de complot et de méfaits de plus de 5 000 $ le soir de cet événement-là. Donc, tant mieux pour eux. Donc, eux autres aussi vont se retrouver peut-être devant la justice dans les prochaines semaines, en plus de la multitude de tickets qu'ils n'ont pas payés, parce qu'ils disent que ça a pas, qu'ils n'ont pas à payer ça. Ben, bonne nouvelle pour eux, ils vont avoir à le payer. Fait que, ils sont. Donc, Mario Roy qui est incarcéré à Bordeaux en attendant son procès pour harcèlement contre une avocate du barreau, a comparu lundi dernier selon a indiqué la porte-parole du directeur des poursuites criminelles et pénales, Audrey Roy-Cloutier, dans ce cas-ci. Donc là, on remonte au 2 juin. Il plaidait que, bon, s'il ne sortait pas de prison pour attendre son procès contre l'avocate, d'avoir harcelé l'avocate, ben s'il sortait pas, son travail dans un verger allait être compromis. Il n'allait pas pouvoir faire son site de glace cette année. Il n'allait pas pouvoir récolter ses pommes et tout ça. Donc, ça a job était entre guillemets en danger. Évidemment, comme il est très instable, le tribunal n'a rien voulu entendre, donc il a été il est toujours derrière les barreaux, il n'a pas obtenu sa libération conditionnelle. Sinon, ben, pour continuer dans cette lignée-là, il y a eu Amélie Paul, il y a eu eux autres. Il y a également l'avocate Gloriane Blais de Lac-Mégantic qui, cette semaine, ben, en fait, plutôt la semaine dernière, avait publié sur son réseau social, ben, sur Facebook, qu'un enfant de 13 ans était décédé en Estrie d'un malaise cardiaque à la suite d'un des vaccins de la COVID-19 et qu'elle attendait davantage de détails. Ça, on voit ça beaucoup sur les réseaux sociaux. L'ami de mon frère est mort, j'ai une cousine que son ami, le fils serait mort. Mais tu sais, jamais de nom, jamais de prénom, on sait pas trop quelle région, on sait pas quand, mais il y a tout le temps quelqu'un qui connaît quelqu'un qui serait mort du vaccin. Ça, c'est inévitable, il y a toujours quelqu'un qui est mort du vaccin. Ce statut-là circule, 1,1 million. Partage, 481 réactions. Les gens, cette rumeur-là circule et culmine lorsqu'une personne importante, entre guillemets, partage cette information-là. Sauf que, évidemment, les debunkers, les décrypteurs se sont penchés sur le cas en question, ont fait leurs recherches, ont appelé la santé en Estrie, ont appelé le centre hospitalier de l'Université de Sherbrooke, le CHU, pour démentir les informations. Après vérification, c'est une rumeur sans fondement, assurée la conseillère en communication. Même son cloche du côté du bureau du coroner, les responsables des communications ont soutenu qu'il s'agissait d'une fausse rumeur. Aucun décès de 13 ans au cours des dernières semaines n'apparaît non plus dans les chroniques nécrologiques de l'Estrie au grand complet. Aucune preuve qu'une personne de cet âge-là est décédée dans la région au cours de la période qui aurait pu, de la période de vaccination autorisée pour les moins, pour les 12-17. On a demandé au service, au ministère de la Santé, aucune trace d'un décès d'un enfant de 13 ans suite à un malaise cardiaque. Donc, il n'y a pas de preuve. Il n'y a aucune preuve qui circule. Et c'est une avocate qui partage le tout. Donc, en ce moment, évidemment, ben, ces réseaux sociaux sont assez tranquilles depuis quelques jours. Donc, il n'y a aucune trace, il n'y a aucune preuve que ce qu'elle avance est vrai. Oui, elle attend qu'on lui donne raison, mais ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas. Des blogs comme Droit Inc. qui suivent justement les frasques de Gloriane Blais depuis l'hiver dernier, qu'elle s'était filmée, elle aussi, dans une manifestation conspirationniste et que le barreau lui avait dit qu'ils avaient reçu de nombreuses plaintes, qu'elle devait retirer sa vidéo. Et elle a signé. Le syndic vient de m'appeler sur mon cellulaire pour me donner le conseil de retirer ma vidéo en lien avec la remise de tickets d'un service de police parce qu'elle était ultra arrogante et ultra bête avec les policiers qui lui donnaient un ticket parce qu'elle était dans une manifestation sans couvre-visage, qui était l'une des principales règles pour manifester à ce moment-là. Eh bien, elle jugeait qu'elle n'avait pas besoin de porter un masque, donc on lui remettait un ticket, mais elle, dans cette vidéo-là, « T'es qui, toi, policier, pour me donner un ticket? Sais-tu, je suis qui, moi? Je suis une avocate, moi. Je ne mérite pas un ticket. » Et non, non, non. « Je suis fier d'avoir marché dimanche dernier. » C'est donc tu sais, elle donne peut-être pas de conseils juridiques sur sa page, mais elle prend position comme étant contre les mesures sanitaires. Et évidemment, ben le barreau, qui est représenté techniquement par Gloriane Blais, quand on fait une recherche, elle apparaît dans le bottin de donc elle n'a pas encore été radiée du barreau du Québec. Donc techniquement, elle est une avocate en règle qui parle pour, ben, pour elle, oui, mais techniquement, elle représente aussi le barreau du Québec quand elle fait ça. Fait en ce moment, qu'elle soit toujours là, c'est quand même particulier. Je ne comprends pas qu'elle soit toujours active. On peut encore l'appeler maître Gloriane Blais. Donc, probablement qu'elle doit être rencontrée dans les prochaines semaines pour qu'elle soit radiée elle aussi, parce que c'est arrivé à Daniel Pilon que le syndic des comptables l'ait rencontré lui aussi pour justement que ça avait pas d'affaires qu'il prenne position comme ça dans le dossier. Il avait eu une amende, sauf erreur, donc en ce moment, est-elle encore inscrite? Si on va à G. Elle est là. Techniquement, pour voir la fiche. Gloriane Blais, droit et litige à Lac Mégantic. Et elle aurait un bureau ici à Québec. Donc, elle est en droit constitutionnel pour les droits et libertés de la personne. Comble de l'ironie. Elle est au civil, au litige, responsabilité civile. Elle est inscrite depuis 1999 au barreau. Blais, droit, litige et médiation Inc., son entreprise. Donc, qu'adviendra-t-il de Gloriane Blais? Ça reste à suivre. Son Facebook est encore ouvert, mais est-elle encore active? La question se pose. Elle était supposée de se retrouver justement dans le panel des 20 complotistes de Amélie Paul et Mel Goyer. Sera-t-elle encore de la partie? Sait-on jamais? Mais bon, ça n'est une autre qui est tombée cette semaine pour tout ce qui s'est passé entourant la complotosphère. Et donc... je vois le temps qui défile. Finalement, l'émission aurait été concentrée là-dessus. Peut-être un peu plus lourd comme sujet, mais en même temps, c'est important que ces gens-là cessent d'avoir autant d'influence dans la société, parce qu'en plus d'être de mauvais conseils, d'être agressif, d'être condescendant avec le monde... faut que les gens réalisent que ce ne sont pas des bonnes personnes. Ce ne sont pas des messies envoyés pour combattre François Legault et combattre Justin Trudeau, que ce sont des profiteurs, toute la gang, ce sont des profiteurs qui sont juste là pour faire leur show, que dans leur chambre d'écho. C'est exactement ça, parce qu'en plus de bloquer tous les gens qui n'adhèrent pas à leur discours, ça fait en sorte qu'ils se confortent entre eux autres. Ils se partent des groupes Facebook, ils se partent des groupes sur Twitter, qui sont seulement entre eux autres, qui sont entre conspirationnistes, que normalement, ils ne seraient pas en famille, entre guillemets, ils ne seraient pas en gang, qui seraient tous isolés les uns des autres avant l'avènement des réseaux sociaux et qu'ils seraient chacun de leur bord, qui feraient leurs petites affaires puis qui croiraient leurs petites affaires. Sauf que les réseaux sociaux font en sorte qu'ils se regroupent, qu'ils se réunissent, puis qu'il y en a là-dedans, comme les Lucie Mandeville, ça en est une autre, Lucie Mandeville à Sherbrooke, qu'ils se réunissent entre eux autres, ils font des marches dans le bois entre personnes qui ne croient pas en la gravité de la COVID, en l'efficacité des masques, en l'efficacité des vaccins, qui se confortent entre eux autres, puis qui se disent... Sylvie Boucher, la comédienne, qui se disent « Ah ben, on fait nos petites affaires entre nous autres, on se réunit, on fait des get-together, on se réunit ensemble, on se conforte, on se flatte le dos entre nous autres, qu'on est des bonnes personnes, mais que dans le fond, il y a en doctrine des gens... qui cherchent juste à trouver une solution à tout ce qui les entoure, mais que malheureusement, ils tombent du mauvais côté, t'sais, qu'ils tombent du côté de la force obscure que peuvent représenter le mouvement complotiste, mouvement conspirationniste, et que malheureusement, ils se font mal conseiller, puis ils tombent là-dedans, puis ils donnent leur argent, ils donnent leurs économies à des gens qui disent qu'ils vont les aider, mais qui les aident pas du tout. Ça s'en vient de plus en plus sectaire, cette affaire-là, malheureusement. Donc, mais d'une bonne chose, on commence de plus en plus à enquêter sur eux, à découvrir des choses. Et si Amélie Paul, qui se vante de son argent, est un cas, qu'en est-il de tous les autres qui demandent de l'argent et tout ça? Tant mieux, d'une certaine manière, si... la bulle se dégonfle tranquillement, pas vite, et qu'éventuellement, ils vont retomber dans un certain anonymat et qu'on n'entendra presque plus parler d'eux autres. Donc, tant mieux de ce côté-là. Et c'est là-dessus que ça se termine. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. La semaine prochaine, beaucoup plus ludique. On va parler de jeux vidéo, entre autres. Sur les ondes de Chiz 94.3 et de CFAQ 88.3 au deuxième service. À la semaine prochaine. Salut.
Vous écoutez Chiz 94.3 FM, à Québec.
Saviez-vous que rap, ça veut dire rythme et poésie?
Le Beatnik Show.
Le show de rap avec le meilleur flow.
À Chiz 94.3, le lundi à 20h30.
Lundi 20h30?
avec votre animateur, Nicolas Leclerc. Pour du bon et pop québécois, t'as pas le choix.
T'as pas le choix!
C'est le Beatnik Show!
Merci, c'est le Beatnik Show!
Chérie, j'arrive. C'est toi qui arrives en ville et qui découvre à quel point il y a du beau et du bon talent artistique à Québec.
En semaine, dès 16h, à Chiz 94.3.
De la réveilleur Saint-Charles, boisé sur le slalom, musique zag.
Si ça nous tue, pourquoi on recommence?
Écoute locale avec Chiz 94.3.
Érotique, un deal infini entre le yang et le yin, t'es le soleil qui lui sur mes wet dreams. Si t'as envie, je t'invite à danser en ligne. Sex machine. Sex machine. Dans les rétines, tu fais briller le bling bling dans les films où tu te shampoo.